que les objecteurs de conscience ou l'objection de servir à l'armée n'est plus une raison pour obtenir l'asile en Suisse. C'est assez grave. Il y a même certains juristes qui disent que c'est en contradiction avec la Convention sur les réfugiés. Il est vrai que dans la pratique, ces personnes seront probablement quand même acceptées. Elles obtiendront une protection, mais non pas l'asile, mais une protection subsidiaire. Là, en fait, il y a eu tout un débat sur les requérants d'asile érythréens qui fuient justement le service militaire, qui est très, très répressif là-bas. En fait, ces gens pourront quand même rester en Suisse, mais avec un statut qui leur octroie moins de droits. Et l'autre chose, donc la suppression de la possibilité de déposer une demande d'asile dans une ambassade à l'étranger, c'est également lié au fait qu'il y a eu beaucoup de demandes déposées, notamment en Syrie avec le conflit en Irak, mais dans d'autres pays, au Sri Lanka, au Soudan, etc. Et là, c'est quand même aussi une décision assez problématique parce que les personnes sont obligées de trouver elles-mêmes une manière d'arriver en Suisse et souvent elles sont obligées de passer par des voies illégales avant de pouvoir déposer une demande d'asile. Même si on a aussi ajouté que les personnes pouvaient quand même déposer une demande de visa humanitaire, mais je pense que c'est quand même une limitation qui est très nette. Mais c'est vrai que la Suisse était un des rares pays qui offrait cette possibilité de déposer une demande d'asile dans une ambassade.
Alors, pourquoi les sénateurs ont déclaré cette mesure sur la désertion comme urgente? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile en Suisse?
Effectivement, depuis 2008, il y a eu une augmentation. L'année dernière, c'était 22 000 ou 23 000 demandes. Donc, on n'est pas du tout au niveau de la fin des années 90 où on avait 46 000 demandeurs d'asile. Mais c'est vrai que depuis 2005, on avait eu une diminution. 2006, 7, 8, 9, il y avait eu une diminution qui existait d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays aussi. Et puis, il y a eu des problèmes, notamment dans l'hébergement des demandeurs d'asile, parce que durant les années où on avait relativement peu de demandes, c'est-à-dire entre 10 et 15 000, les structures d'accueil ont été diminuées nettement. Et maintenant, les autorités cantonales aussi étaient prises un peu de court parce qu'elles n'arrivaient plus à loger tous les nouveaux demandeurs. Et ça, ça a créé un peu, parfois jusqu'à une panique dans la population, mais je pense que c'est justement parce qu'on a été mal préparé.
Alors justement, comment sont pris en charge les demandeurs d'asile? Où est-ce qu'ils logent?
Dans un premier temps, ils sont toujours logés en centre collectif et vu qu'il n'y avait plus assez de centres, on a pris des abris de protection civile. Donc on a essayé de réaffecter des abris de protection civile ou des abris pour l'armée qui existaient. Et dans cette première phase, en tout cas, qui dure de 3 à 6 mois selon les cantons, il n'y a pas vraiment d'intégration parce que les gens sont dans le centre. C'est vrai qu'ils ont un lieu où ils peuvent dormir, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de contact avec la population en général. C'est vrai qu'il y a eu des personnes aussi qui ont commis des infractions ou qui ont volé. Donc ça, évidemment, ça a tout de suite été aussi repris dans les débats, dans les bistrots, dans la presse. Et ça, ça n'a pas vraiment facilité, bien sûr, le dialogue. Et c'est vrai que le fait qu'il y avait des personnes qui traînaient dehors parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place d'hébergement, les personnes pouvaient dormir quelque part, mais pendant la journée, elles étaient dehors et souvent inactives. Ça, ça n'a quand même pas facilité le contact avec la population.
Donc finalement, en dehors du logement, qu'est-ce qu'il manque aux demandeurs d'asile pour être mieux intégrés?
Je pense que l'inactivité est assez problématique. C'est vrai qu'il y a certains cantons qui ont aussi essayé de mettre sur place des structures d'occupation pendant la journée, même y compris des travaux publics. Donc un soutien, par exemple, de nettoyage dans les environs ou de petites constructions. Et ça, en général, c'est quelque chose qui est assez positif. Et pour les requérants qui, eux, ne sont pas livrés à l'inactivité, à l'attente. Et c'est aussi positif pour la population qui voit que les gens ne traînent pas ou ne boivent pas de l'alcool pour faire passer le temps.